Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est Jacques et vous écoutez la Toscane Occitane sur CFM Radio. La Toscane Occitane, votre rendez-vous mensuel sur CFM Radio à la découverte des trésors du Tarn. Et aujourd'hui, nous posons nos valises à Lille-sur-Tarn, la Bastide au bord de l'eau, ou un charmant village entre briques rouges, reflets d'eau et art de vivre. Et au fil de cette émission, nous irons flâner dans les ruelles médiévales de Lille-sur-Tarn, rencontrer aussi des lieux incontournables à découvrir, que ce soit dans le village ou dans ses alentours. On parlera bien sûr des paysages qui font tout le charme de cette Toscane à la française. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, guidés en cela par une conseillère en séjour de l'Office de tourisme de la Toscane Occitane, c'est Nathalie Allogue qui est avec nous. Salut Nathalie.
Bonjour Jacques.
Alors Lille-sur-Tarn, Nathalie, commençons par un résumé de l'histoire de cette charmante cité de caractère qui est située sur les bords du Tarn, en plein cœur du vignoble de Gaillac.
Oui, alors Lille-sur-Tarn, c'est une bastide, hein, on dit la bastide au bord de l'eau. Alors, pour rappel, le terme bastide désigne souvent des villes nouvelles. Hein, ça, c'est très important de le savoir. Des villes nouvelles créées dans le courant du XIIIe siècle et dont la vocation était commerciale. Alors, la bastide lilloise, elle fut probablement bâtie à partir de 1229, après la croisade des Albigeois. Alors, à ce moment-là, le commerce est en plein essor et le site, il faut le dire, est idéalement situé au carrefour du commerce fluvial entre Albi et Toulouse. Donc, il faut savoir que Lille-sur-Tarn, parce qu'on emploie souvent ce mot de bastide, des fois d'ailleurs un petit peu à tort, Lille-sur-Tarn est la seule bastide tarnaise de plaine hein, possédant un port. Le port n'existe plus aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il fit la prospérité, bien évidemment, de la cité par l'acheminement des voyageurs, le transport et la vente des produits locaux. Alors, dans ces produits locaux, qu'est-ce qu'on transportait ? Eh bien, le pastel, les céréales et beaucoup, beaucoup de vin. Hein, le transport du vin dans les amphores sur ce Tarn qui partait ensuite vers la Garonne. Donc, le transport fluvial, il assura à la ville un essor permanent dont témoignent aujourd'hui quelques beaux hôtels particuliers qu'on peut voir dans la ville. Alors, quand on arrive au centre de Lille-sur-Tarn, eh bien, on découvre la plus grande place à couvert médiévale du sud-ouest. C'est un quadrilatère parfait, entouré d'arcades continues et de façades ornées de briques en terre cuite, d'encorbellements et de colombages. Alors, c'est vrai que même les gens du coin connaissent cette grande place, mais souvent ne savent pas qu'elle a ce statut de plus grande place à couvert médiévale du sud-ouest et qu'elle fait quand même une superficie de 4425 mètres carrés, c'est pas rien, hein, au centre desquels se dresse la fontaine du Griffoul, qui date du XIIIe siècle et qui est classée monument historique. Donc ça, cette place-là, c'est le véritable cœur de la Bastide, la place Paul Sessac, qui demeure aujourd'hui encore le centre de la vie économique et sociale. Donc quand on arrive à Lille, on va dire que quel que soit le côté par lequel on arrive dans la ville, les rues nous amènent directement à ce centre névralgique, cette magnifique Paul Sessac. Alors, dans les ruelles adjacentes, la promenade va nous emmener à travers un tracé en damier, caractéristique d'ailleurs du plan d'urbanisme d'une bastide. On y trouve des belles maisons typiques de l'architecture médiévale, des maisons en torchis ou en briques rouges, et on trouve surtout ces fameux puntettes. Alors, ces puntettes sont des petites pièces qui sont bâties au-dessus de la rue et qui permettent de relier deux maisons entre elles. Et à Lille-sur-Tarn, il en existe encore 6 qui sont très bien conservées. Donc ça, c'est une des particularités absolument à voir et à rechercher dans Lille-sur-Tarn. Et puis, la balade nous amène à l'église de Notre-Dame de la Jonquière, qui est, comme la fontaine, classée monument historique, qui a été bâtie entre le XIIIe et le XIVe siècle, qui est une belle construction en briques, qui s'étire sur 42 mètres de long. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est son clocher d'une hauteur de 50 mètres et qui est orné d'ouvertures en fait semblables à celles de la tour de l'église des Jacobins de Toulouse. Donc, quand les Toulousains arrivent à l'Isle-sur-Tarn, ils remarquent ce clocher, ça leur évoque vraiment quelque chose.
Alors, aux visiteurs qui veulent découvrir cette bastide au bord de l'eau, qu'est le village de l'Isle-sur-Tarn, Nathalie Allogue, qu'est-ce que tu leur conseilles d'y faire ?
Alors, bien évidemment, de faire la visite de la ville en flânant et en utilisant l'application mobile Enquête, hein, cette application qui est complètement gratuite et qui est un vrai support pour faire des visites en autonomie et qui va vous révéler tous les secrets de l'Isle-sur-Tarn. Quand on est à Lille, on visite aussi les deux musées. Alors, on a le musée Art du Chocolat pour les gourmands et les familles. Ce musée, c'est à la fois un lieu d'exposition de sculptures et d'œuvres d'art en chocolat, bien sûr, une boutique chocolatèque et un espace pour des ateliers multi-activités autour du chocolat qui sont proposés dans le courant de l'année par le musée. Et l'autre musée aussi, un petit peu étonnant par sa richesse, c'est le musée Raymond Lafage qui offre une spectaculaire collection d'art graphique du XVIIe siècle à aujourd'hui. Et nous avons d'ailleurs aujourd'hui avec nous, pour nous en parler, Anne-Marie Carassus, qui est la responsable du musée.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Nathalie.
On est très heureux de t'accueillir aujourd'hui parmi nous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce musée, de ce qu'il contient et de ses particularités ?
J'ai la charge du musée depuis 2004 et j'articule ma programmation autour des arts graphiques. Et le musée est maintenant visible sur trois niveaux. Un premier niveau qui présente le musée tel qu'il était à sa création, c'est-à-dire en 1890. À ce niveau sont présentés, outre les objets archéologiques, mais aussi donc des peintures 19e, axées sur l'Isle-sur-Tarn pour l'instant, mais aussi donc des dessins, des sculptures et du verre de Grésigne. Ensuite, le deuxième niveau, nous passons à 1950. 1950, le musée change de nom, il prend le nom du personnage illustre de la ville qu'est Raymond Lafage, donc dessinateur graveur de l'Isle-sur-Tarn, qui est né à l'Isle-sur-Tarn. La légende dit, c'est un clin d'œil, que Raymond Lafage serait décédé pour avoir exagéré sur les nectars de notre région. Depuis 1952, le musée est labellisé Musée de France. Il l'est toujours. Donc c'est un musée national avec une régie municipale. Donc à ce deuxième niveau sont présentés dessins et gravures de Raymond Lafage et d'après Raymond Lafage, puisque de son œuvre a émané un courant et d'autres graveurs comme Hertin Géodran ou Simenon se sont inspirés de dessins de Raymond Lafage pour graver eux-mêmes. Donc, dans un musée d'art graphique, il y a des impératifs, c'est-à-dire la luminosité, l'hygrométrie et la température sont néfastes à la conservation des œuvres. On a opté pour le fait de présenter les œuvres dans des tiroirs que le visiteur ouvre, le tiroir s'allume et vous pouvez voir donc les œuvres de Raymond Lafage et de ses suiveurs. Ensuite, le troisième niveau. Le troisième niveau, ce sont les contemporains. Ce qui a été fait au musée depuis 25 ans maintenant, en donation, en acquisition, vous avez, en rentrant dans cet espace, une autre forme de dessin qui est rentrée au musée par le dessin de presse. Là, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec les dessinateurs de Charlie Hebdo. Là, vous pouvez voir des photos et des dessins de presse qu'ils ont effectués lors de leur venue à l'Isle-sur-Tarn durant 7 ans, puisqu'ils sont venus de 2007 à 2014. Nous avons reçu à l'Isle-sur-Tarn tous les dessinateurs, malheureusement, qui ont péri dans l'attentat. Seul rescapé, c'est Rhys, qui est directeur maintenant de Charlie Hebdo. Donc, vous pouvez voir ses dessins, regarder ses photos, mais aussi, il y a leur maître, c'est-à-dire que sans Honoré Daumier, lithographe du 19e siècle, il n'aurait pas choisi cette profession, m'ont-ils dit. Surtout Cabu et Wolinski. Ensuite, nous avons mis en place depuis 2009, on revient sur le dessin académique, avec la mise en place d'une triennale internationale de gravure en taille douce. Il y a des grands noms de la gravure qui sont venus à l'Isle-sur-Tarn, comme Mikio Watanabe, comme Judith Rothschild, comme Gérard Trignac, qui a eu deux fois, qui a été lauréat de la Casa Velázquez, Jacques Muron, qui a eu le Grand Prix de Rome, comme Raymond Lafage, mais dans notre temps. Et un tiers de cet espace du deuxième étage est réservé aux expositions temporaires. Et en ce moment, il y a Judith Rothschild, américaine, spécialiste de la gravure en manière noire, et Magdalena Kopacz, qui est polonaise, et qui présente ses sculptures en céramique. Toutes ces expositions sont toujours ponctuées de différents moments de rendez-vous avec le public. Ce ne sont jamais des expositions statiques. Nous faisons toujours soit un stage, soit une démonstration pour savoir ce qu'est la gravure. Parce que la gravure, ce n'est pas un terme désuet, le dessin non plus. Et au contraire, nous voulons faire vivre, éprouver aux visiteurs du plaisir de comprendre ce qui se passe au musée et les différents rendez-vous que nous réservons. Voilà.
D'ailleurs, Anne-Marie, quand on se présente au musée, on peut demander à être accompagné, guidé à travers ce musée, hein, pour justement
tout
mieux comprendre
les œuvres.
Nous
sommes une équipe de deux. Et oui, effectivement. Alors, nous donnons les grandes lignes de ce qui se passe au musée ou de ce que le visiteur peut voir, mais également nous l'accompagnons s'il le désire, s'il est curieux, évidemment que nous sommes là parce que nous aimons, et c'est une passion, hein, quand on vit dans un lieu comme ça, dans un cadre comme ça, nous avons la passion de pouvoir justement transmettre ce que nous exposons. Voilà.
Très bien. Mais écoute, Anne-Marie, on te remercie pour cette explication du musée et en précisant bien évidemment que, comme tu l'as dit, hein, le côté avec ces tiroirs que l'on ouvre, finalement, donne aussi tout un aspect ludique
à la
découverte des œuvres et parcourir ces étages un petit peu comme si on allait découvrir des trésors. Eh bien, écoute, je te remercie encore, Anne-Marie, je te souhaite une bonne journée.
Je t'en prie, Nathalie, et c'est avec plaisir que je vous recevrai si besoin est. Voilà.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et après ce musée Raymond Lafage, nous continuons à découvrir ce qu'il y a à faire dans ce village de l'Isle-sur-Tarn, Nathalie.
Alors on peut, après avoir vu les artistes représentés au musée Raymond Lafage, on peut découvrir aussi des artistes contemporains locaux à la galerie d'art qui s'appelle l'Embarcadère, que l'on trouve au cœur donc de l'Isle-sur-Tarn. On peut aller faire une promenade autour du lac de Bellevue. Donc ça, c'est un petit lac qui se trouve donc à une des entrées de l'Isle-sur-Tarn. Très agréable petit lac où on peut pique-niquer. Il y a aussi tous les dimanches matins le marché de l'Isle-sur-Tarn qui est installé donc sur la grande place Paul Sessac et qui propose des produits locaux. Et tout au long de l'année, il y a des événements annuels réputés qui sont maintenant bien installés. On a par exemple l'île Noire en septembre. Donc l'île Noire, eh bien, c'est sur le roman noir, hein, justement, qui attire pas mal de monde. Il y a le festival Arsenic en juin, hein, de la musique avec de belles têtes d'affiche. Le marché de Noël aussi est réputé. Le feu d'artifice sur le lac au mois de juillet. Voilà, il y a tout un tas d'événements qui agrémentent cette découverte de l'île.
Et on sort un tout petit peu du village en suivant dans la Toscane Occitane sur CFM Radio avec aujourd'hui l'Isle-sur-Tarn comme point de gravité. On voit ce qu'il y a à faire aux alentours de ce village avec toi Nathalie. Après avoir écouté G. Bernard, voici Calm Down.
Wanna know, used to see it coming, used to see it turn from within. I wanna know, a nickel for your thoughts, a dime for a touch on your skin. Never get enough, a touch from the soft and the rough. Even we know, it's not the way we do things, not the way they do around here. Calm down, my love. When will you play the soft and the rough? Calm down, my love. When loving you just isn't enough. I'm cornered underneath and above. For loving you just isn't enough. What do we know? Used to see it coming. To see it turn on its own. We go alone, but don't see where to end. It's a straight line that we have been. So we stick to what we know. We're stolen alibis, we won't blow. We calm the rush, the praising or the blame. All stays the same to us. Calm down, my love. When we play the soft and the rough. Calm down, my love. When loving you just isn't enough. I'm cornered underneath and above. For loving you just isn't enough.
Vous écoutez la Toscane Occitane sur CFM Radio et aujourd'hui c'est à l'Isle-sur-Tarn que nous sommes et dont nous sortons, toujours en compagnie de Nathalie Alloc. Je dis sortir parce que maintenant c'est aux alentours de ce village que nous allons parcourir audiophoniquement avec toi.
Oui, de toute façon, dès qu'on se retrouve de suite dans la campagne, hein, dès qu'on sort de l'Isle-sur-Tarn, et donc il faut justement parcourir cette belle campagne lilloise, la parcourir à pied ou à vélo pour voir un petit peu les châteaux. Il y en a pas mal dans les alentours ou les imposantes maisons de maître au milieu des vignes qui rappellent que l'excellence des vins a fortement contribué à la prospérité de la commune. On voit aussi toute une multitude de pigeonniers. Au Moyen-Âge, en fait, et jusqu'à la Révolution, eh bien, le droit d'élever des pigeons était un privilège qui était réservé aux propriétaires terriens qui utilisaient la fiente de pigeon, qu'on appelle plus joliment la colombine. Cette fiente de pigeon était donc, cette colombine était utilisée comme engrais. Alors, ces pigeonniers, hein, ce sont de véritables emblèmes du territoire. Il y aurait à Lille une soixantaine de pigeonniers, dont 7 à l'intérieur même de la ville. Et donc, il y en a de toute taille, parce que c'était un petit peu un signe ostentatoire, hein, ces pigeonniers. Quand on avait une grande propriété ou quand on voulait montrer qu'on était un propriétaire terrien qui avait les moyens, ben on faisait un plus beau pigeonnier, plus ornementé, plus haut, plus gros. Enfin, vous avez compris le principe. Alors, dans ces balades à pied à vélo, eh bien, par exemple, une Norando, le Norando Vignée Clocher, qui permet de s'immerger dans ce patrimoine le long d'une boucle facile de 8 km et qui permet de conjuguer plaisir de la marche et des papilles, puisqu'il est possible en fait de s'arrêter dans les domaines viticoles qui jalonnent le parcours et de faire des dégustations si on le souhaite. Si on préfère une échappée à vélo entre Vignée Coteaux, les vélos de Léonce à Lille-sur-Tarn proposent des circuits en VTT électrique qui sont vraiment accessibles à tous, qui se font au départ de Lille-sur-Tarn. Alors ces itinéraires offrent de beaux points de vue et aussi quelques surprises comme le tumulus de Saint-Salvi de Coutances, qui est une mystérieuse motte de terre d'environ 10 mètres de haut, faite par la main de l'homme, et dont la tradition rapporte qu'elle pourrait, je dis bien qu'elle pourrait être la sépulture d'un général romain. Alors quand on fait du vélo, et bien là encore, les épicuriens peuvent faire des haltes dans les domaines viticoles, hein, histoire de se faire un petit peu plaisir entre chaque coup de pédale. Alors, à pied ou en vélo, on rejoint facilement aussi le hameau de Sorce, tout proche de l'île, où se trouve le château de Sorce, qui vaut le détour à la fois pour sa bâtisse et pour ses jolis jardins, ainsi que ses très belles caves voûtées qui sont visitables l'été. Et il faut savoir que le domaine viticole du château de Sorce, il est exploité par la même famille depuis le XVIe siècle. Donc un pan de l'histoire de la commune. Quoi faire aussi quand on est dans le secteur de l'Isle-sur-Tarn ? Eh bien, se promener dans la forêt toute proche, la forêt de Sivens, qui est un espace naturel sensible de 600 hectares. Alors, pour les balades ludiques, il y a la possibilité de suivre des parcours, un peu de balise en balise, trois parcours d'orientation qui s'appellent « Explorateurs du Tarn », dont un parcours enfant et deux parcours adultes, et puis bon, les sentiers que l'on trouve dans la forêt. Alors notamment, eh bien, au cœur de la forêt, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Eh bien, de découvrir la vie de la ruche avec un apiculteur au domaine de Candal, puisque Vincent nous reçoit et nous propose d'ailleurs d'enfiler des combinaisons d'apiculteurs. Vincent est là aujourd'hui avec nous pour nous parler de son activité.
CFM. CFM Radio. CFM Radio.
Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Alors Vincent, tu es apiculteur tout près de l'Isle-sur-Tarn, enfin en tout cas pas très loin de l'Isle-sur-Tarn. Et tu as, dans le cadre de ton activité, eh bien, tout un accueil pour recevoir les gens, les familles. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là de ton activité d'apiculteur, s'il te plaît ?
Oui, je suis donc sur la commune de Lille-sur-Tarn. Depuis 2011, on reçoit du public sur l'exploitation. Et en particulier, on me reçoit surtout l'été, les familles donc qui peuvent venir découvrir notre activité, mettre une tenue d'apiculteur. Voilà, on prend des photos. On est situé en pleine forêt, donc dans un milieu préservé. Donc on travaille avec des abeilles plutôt douces, ça c'est important. Et on a aussi une activité pour recevoir le public, mais là, ça est plus tourné vers les écoles. Donc ça, c'est très, très important pour nous. On reçoit les écoles du département et hors département, voilà, où on leur propose plusieurs ateliers. Voilà. Donc après, on a aussi une troisième activité qui est la formation. Je fais de la formation pour la Chambre d'agriculture et pour le particulier qui veut avoir une ruche. Mais on est centré vraiment sur le... recevoir les gens qui viennent en vacances dans le département, les familles qui habitent le département. Donc, on va parler de tout ce qui tourne autour de la ruche, faire découvrir les produits de la ruche, évidemment, et tout ce qui peut être les aptitudes de l'abeille à aller chercher du miel, sa vision, toutes les choses avec des supports ludiques et pédagogiques.
À partir de quel âge c'est possible ça de participer à ces ateliers, Vincent, les abeilles en famille ?
Il n'y a pas d'âge limite. Hein. On reçoit les visiteurs, les petits visiteurs. Ça peut aller. Alors évidemment, on va protéger si c'est des bébés, des enfants. On éloigne un petit peu de la ruche, évidemment. Donc on reçoit, je dirais, de 2-3 ans jusqu'à. Il n'y a pas d'âge. Hein. Ça peut. On a eu. J'ai eu une fois une maison de retraite qui est venue visiter l'exploitation. Alors ça, c'est assez rare. Mais ils avaient 95 ans. Voilà, tous. Et c'était des dames essentiellement qui sont venues il y a quelques années déjà. Mais on n'a pas de critères d'âge. On est ouvert à tout public, que ce soit des publics handicapés ou avec des déficiences. On a un accès qui est facilité et tout ce qu'il faut pour accueillir tout le monde.
Et donc là, tu leur proposes à ceux qui le souhaitent d'enfiler une vraie combinaison d'apiculteurs.
Exactement, de vivre l'expérience en immersion. Une vraie combinaison. Ils mettent des gants, ils viennent sur le rucher. On les positionne, je les positionne autour de la ruche. Je fais avant quand même une démo pédagogique avant de les amener sur les ruches. Et après, on fait des photos ensemble, on déguste du miel. Voilà, on a aussi dans la forêt un parcours pédagogique pour les familles. Donc ça complète, le parcours pédagogique, lui, est axé sur l'abeille, mais sur la nature aussi. Donc les gens peuvent faire le parcours pédagogique et une activité créative nature avec ma compagne, s'il le désire. Voilà. Il y a plusieurs ateliers. On a quelques animaux. On a un chien, des poules et des ânes. Voilà, de façon simple.
Voilà, qu'il est possible de rencontrer. On peut voir les ânes quand on vient à la ferme pédagogique.
Oui, bien sûr.
Bien. Eh bien, écoute, on espère que de nombreux visiteurs viendront rencontrer tes abeilles, tes ânes au domaine de Candal. Et on te remercie pour cette présentation, Vincent.
Moi, je tenais aussi à remercier nos partenaires qui travaillent avec nous, donc la Chambre d'agriculture aussi, mais surtout aussi l'Office de tourisme qui nous aide à faire connaître et à développer notre activité.
Merci, Vincent.
Merci, au revoir.
Et quand on sort des abeilles du domaine de Candal, et pour terminer, Nathalie, une autre proposition.
Eh ben, quand on a fait tout ce beau programme, visiter la ville, être allé marcher, avoir fait du vélo, avoir fait des dégustations, etc. Moi, je dis que ça vaut le coup de se prévoir un petit moment détente au bain d'Ambre. Alors, les bains d'Ambre, ça se trouve au domaine Ambre, qui est un domaine viticole. Hein. Et là, on y trouve un espace privatisé avec hammam, jacuzzi, bain d'eau froide et massage. Et ça, c'est vraiment un très chouette moment que vous pouvez faire à 2, 3, 4. Voilà. Et puis, un moment que vraiment un espace privatisé. Ça, c'est important de le préciser.
Et voilà pour quelques propositions d'activités à faire, à vivre aux alentours du village de Lisle-sur-Tarn où nous sommes aujourd'hui dans ce numéro de la Toscane Occitane. Et toujours en compagnie de Nathalie Allogue, nous allons parler de l'agenda des manifestations dans le Tarn dans les jours et semaines à venir, ainsi que des actualités de l'Office de tourisme de la Toscane Occitane.
Bam 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 ba de
reste de cette émission La Toscane Occitane sur CFM Radio. Nous étions au village ou installés dans le village de l'Isle-sur-Tarn et ses alentours. Et maintenant, Nathalie Allogue, parlons des actualités de l'Office de tourisme La Toscane Occitane.
Alors, nos actualités, à cette période de l'année, le mois de novembre, décembre, jusqu'à janvier, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Eh bien, on a un petit peu moins de visiteurs. Et pour nous, c'est l'occasion aussi eh bien, d'accompagner, de continuer en tout cas à accompagner les professionnels du tourisme. J'entends par là tous les gens qui, à un moment donné, sont liés à du public. Hein, un hébergeur, un restaurateur, un domaine viticole, quelqu'un qui fait une activité artisanale. Enfin, voilà, c'est très vaste hein, comme professionnel prestataire. On les accompagne par des choses diverses. Et notamment à cette période de l'année, eh bien, des réunions en fait en tout petit comité pour leur donner la parole et pour nous aussi leur présenter un petit peu les bilans. Ce sont des échanges privilégiés en fait qui permettent à tous les gens qui accueillent du public eh bien, de peut-être trouver des astuces ou des orientations pour valoriser leur accueil. Et valoriser l'accueil, eh bien, c'est valoriser notre destination. Avec tout ce que ça implique après comme retombées économiques dans tous les domaines. Donc ces réunions, on les fait par une thématique qu'on appelle les petits déj pro, des réunions donc qui se font chez un hébergeur ou chez un restaurateur ou dans un hôtel, là où on veut bien effectivement recevoir ces réunions. Un petit déjeuner est proposé et là, il va y avoir donc une réunion où chacun pourra s'exprimer. Et la nouveauté cette année, eh bien, c'est que pour permettre à un peu plus de ces professionnels, eh bien, d'assister à ces réunions, on a proposé un autre horaire, puisque certains le matin étaient souvent occupés. Donc maintenant, un horaire en fin d'après-midi, 18h, dans un domaine viticole. Et là, la formule est plutôt sous forme d'apéro. Et permet de découvrir le domaine. L'idée, c'est que tous ces prestataires se rencontrent aussi parce qu'ils ne se connaissent pas forcément. Et l'idée, c'est de créer un maillage pour que la destination soit plus forte.
Et de la synergie aussi entre tous ces acteurs hein, de la vie touristique et économique du territoire.
Exactement.
Merci beaucoup Nathalie Allogue pour ce numéro consacré aujourd'hui hein, au village de l'Isle-sur-Tarn, la Bastide au bord de l'eau. Et si vous avez pris le train en marche, eh bien vous pouvez retrouver tout cela en podcast bien emballé sur cfmradio.fr. On se dit au mois prochain Nathalie.
Merci Jack, au revoir.
A pretty penny, I've turned a head or two. I've learned you let your guard down when somebody's good for you. I've seen some miracles, been flown across the world to learn firsthand what they say. All that glitters isn't gold. All that glitters isn't gold. To the bottom, but I reached the top. I had everything and I lost it all. Life is crazy, love me baby, with all you got. I swam with the devil till I faced my fears. Sailed through an ocean that was filled with tears. Life is crazy, love me baby,